On aura attendu jusqu'au 13 novembre, la 11e journée de Ligue 1. Mais avec l'OL, il ne faut jamais désespérer. Ça y est, on tient enfin cette première victoire en Ligue 1. Soyez les bienvenus dans Cop Gun. On va évidemment revenir sur cette victoire contre Rennes hier avec Edouard G, qui m'accompagne comme chaque semaine. Bonsoir Edouard.
Bonsoir Elodie, bonsoir à tous.
Enzo Real et Thierry Boisrivan en face de vous. Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Et ravi de vous retrouver. Pareil. Et double exploit, Thierry est là et il y a une victoire. C'est arrivé très rarement depuis le début de cette émission.
Le Black Cat.
J'avais la réputation du chat noir. Et là,
voilà, vous avez brisé la malédiction.
Pour nos retrouvailles, je suis là.
L'OL a gagné après 11 journées, donc on perd pas de temps. On va regarder les images avec ce déplacement à Rennes. Des Rennais qui nous ont bien aidés, hein, ils ont joué à 10 pendant 86 minutes suite au rouge de Guéla Doué pour sa première titularisation en Ligue 1 et délivré à la 67e minute de jeu. Il a fallu un défenseur quand même pour marquer à l'OL. C'est Jack O'Brien qui a permis à l'OL de s'imposer. On écoute les réactions d'après-match au micro de Xavier Grimaud.
Il y a pas de soleil. On est encore sur le bateau et il y a la tempête. Parce que si on regarde où on se trouve, il n'y a pas de soleil. Mais bien sûr, il y a la sensation d'avoir, de comprendre que si on met tout sur le terrain, on va jouer les matchs et on va essayer de gagner partout. Après, des fois, on y arrivera, des fois, on n'y arrivera pas, mais c'est important d'enlever les ego, io, et mettre d'avant nous et OL, que c'est la chose la plus importante.
C'était une victoire qu'on attendait depuis longtemps. Premier match où on a vraiment le sourire. Donc, voilà, on est heureux, comme je l'ai dit. Après, c'est qu'une première victoire. Donc, c'est sûr qu'il va falloir encore travailler pour les enchaîner, mais on est très content. On est très content de pouvoir aller en trêve internationale avec cette victoire.
Alors c'est la première victoire en Ligue 1 depuis le 27 mai dernier. Messieurs, l'OL reste lanterne rouge à 4 points du barragiste, mais un match en retard, celui contre l'OM qui se jouera le 6 décembre. On a joué à 11 contre 10 pendant 86 minutes. C'était quand même laborieux, on a eu peur, Enzo, mais franchement, on ne va pas bouder notre plaisir, l'essentiel est là, il fallait cette victoire, il fallait ce déclic.
Bien sûr, c'est une victoire très importante, parce que voilà, au niveau des points, il fallait 3 points. Et c'est vrai que le scénario il a joué en notre faveur, qu'on n'a pas maîtrisé le match de bout en bout, mais le plus important, c'était la victoire, et en plus, on savait qu'on allait passer par des moments difficiles, en commençant par une victoire comme ça à l'arrache. Et ça va engranger de la confiance. C'est mieux d'avoir une victoire que passer 15 jours sans jouer et repartir sur quelque chose.
Parce qu'il y a la trêve internationale qui arrive. Thierry, vous, le supporter de l'Olympique Lyonnais, vice-président du club de supporters rouge et bleu, 27 mai, je le disais, c'était la dernière victoire de l'OL en Ligue 1. Comment avez-vous réagi devant votre télé hier soir ?
Honnêtement, j'avais les larmes aux yeux. C'est un truc de dingue, j'avais les larmes aux yeux parce que... Je me suis dit, ça y est, enfin une victoire, c'est incroyable. Et en plus, demain, je viens chez BFM. Incroyable. Je retrouve Elodie, que je n'avais pas vue depuis très longtemps. J'étais vraiment super heureux et j'avais un peu les larmes aux yeux, je ne vais pas m'en cacher. Et à un moment, je disais, si on doit gagner, même si c'est avec un but de la fesse, un but n'importe comment, enfin, peu importe. Non, on va rester fair play quand même. Mais voilà, il faut un moment que... Il fallait un moment qu'on gagne, quoi. Il fallait que ça libère les têtes des joueurs.
C'est vraiment ce qui ressort, Edouard. Effectivement, la manière, finalement, nous importait peu. Hier, il l'a fallu, cette première victoire. On l'a attendu, les joueurs l'ont attendu. Même si on sent bien que cette OL est encore un petit peu malade. Qu'est-ce que ça fait du bien ?
Ça fait du bien. On a vu des sourires, là, sous la casquette de Maxence Cacré. On a vu du soulagement, on a vu des cris de joie. Franchement, on a eu limite aussi, je crois, Corentin Tolisso a eu quelques larmes, parce qu'on sait qu'il donne beaucoup. C'est pas quand même anodin, quoi, en fait. Même s'il y a eu la trêve, on va dire, de 2 mois presque, hein, juin-juillet, ça faisait 5 mois et 16 jours, presque 6 mois sans gagner.
En nombre de jours, 169, si je ne dis pas de bêtises.
Ouais, franchement, je...
Vous avez été bien occupé cet après-midi.
Voilà, c'est ça. Ah, mais il faisait des stats.
En fait, chaque semaine, il mettait les jours en plus, etc.
Comme dans la prison. Clac, clac, clac.
Non, mais c'est vrai que, justement, cette image de la prison, ça veut dire que, quelque part, d'une certaine manière, tu te libères. Mais alors, il faut tout de suite balayer le fait de dire, c'est bon, c'est le déclic, on verra la suite. Mais au moins... voilà.
Restons prudents, effectivement.
C'est comme quand il y a un buteur qui n'a pas marqué. Vous savez, souvent, il fait,
il
enlève les voilà, étoiles d'araignée. Voilà, bah là, on a l'impression qu'ils ont un petit peu fait ça. Quoi.
Effectivement, c'est ce qu'on a eu le sentiment de voir hier, Enzo, à la fin du match. Une victoire 1-0, courte victoire, mais on a vu ces scènes, ces points fermés, cette joie d'Alexandre Lacazette qui a filé directement vers le COP des supporters, parce que les supporters lyonnais, ils étaient encore 500 hier à Rennes. On a vu cette communion, on va regarder les images, mais cette communion avec ce COP présent hier, on avait l'impression, regardez cette joie des Lyonnais qui sont pourtant derniers de Ligue 1. Mais on a senti tout ça qui sort de la part des joueurs hier.
Ouais, c'est sûr que c'est un soulagement pour les joueurs, parce que quand tu enchaînes les mauvais résultats, ben il y a cette petite peur de gagner qui te hante. Quand tu mènes au score, le bloc, automatiquement, il commence à reculer, et c'est ce qu'ils ont fait. Même à 11 contre 10, on a senti quand même une certaine fébrilité. On s'est dit, à tout moment, on peut se faire égaliser. Et ça, normalement, dans une spirale positive, eh ben, le match, tu continues d'attaquer, eh ben, tu prends les choses en main, tu gardes la balle. Et c'est ce qu'on n'a pas vu hier.
Dans les arrêts de jeu, on a eu très très peur, faut le dire.
Oui, bien sûr, avec, je crois, il y a eu une ou deux interventions de la VAR vers la fin. Ouais, c'était poussif, mais bon, c'est une victoire qui va emmener de la confiance pour les joueurs.
Un mot sur la compo de Fabio Grosso aussi, messieurs, on le dit depuis qu'il est là. Il fait souvent des choix très forts de mettre Ryan Cherki sur le banc, notamment quand tout le monde dit que Ryan Cherki doit être titulaire. Hier, la surprise, Edouard, c'est Alexandre Lacazette, le meneur de cette équipe de Lyon, qui a débuté sur le banc. Ryan Cherki, Mama Baldé, Nuama, c'était les choix de Fabio Grosso hier.
Oui, c'était assez surprenant. Je vois si on peut 4-2-3-1 ou 4-4-2. En tout cas, voilà une nouvelle façon d'aborder cette rencontre. Alors, est-ce qu'il a voulu titiller Alexandre Lacazette? Est-ce qu'il a voulu changer un petit peu les choses? Ou est-ce qu'il se disait déjà, on verra peut-être, Alexandre nous amènera sur la deuxième partie du match. Alors après, ça fait du bien aussi pour lui, parce que surtout quand on fait un choix comme ça, c'est important quand les choix sont validés par une victoire. Parce que là, à la limite... Tu peux dire, on va moins, pas polémiquer, mais on va moins parler sur la non-présence d'Alexandre Lacazette, parce qu'on imagine, sur la feuille de match, là, à l'instant T, on met qui Anthony Lopez, Maxence Caqueret, Corentin Tolisso, et puis Alexandre Lacazette. Ces quatre-là, on les met d'abord, et après on met les autres. Construit. Là, tu l'enlèves. S'il n'y avait pas eu de victoire, il peut y avoir, sans parler de polémique, mais en tout cas, se poser des questions, pourquoi il est là. Là, voilà.
Après, dans un vestiaire, s'il y a une vie de groupe, il y a la communication entre le coach et le joueur, et peut-être qu'il l'a senti moins frais ces derniers temps. Donc il s'est dit, je vais le faire rentrer, peut-être qu'il va apporter ce plus, et ça valide une victoire. Donc,
Et Alexandre a eu un comportement exemplaire. On a vu quelques images de lui sur le banc de touche. Il haranguait ses collègues, enfin ses coéquipiers, et il était là, il discutait même avec ceux qui étaient sur le banc. Il n'était pas là en mode, je joue pas. Non, il était vraiment...
C'est intéressant. C'est un peu la méthode de Fabio Grosso qui nous explique depuis qu'il est là. Il veut ce mot ensemble, tout le monde est là. Et il nous évoque souvent les 5 changements. Et mine de rien, 5 par rapport aux 10 joueurs de champ, vous avez compris, c'est la moitié de l'équipe. Donc il veut mélanger tout le monde, et ça envoie aussi des messages. Heureusement, encore une fois, que ça a gagné pour lui.
Une question quand même, messieurs. C'était le 6e match hier de Fabio Grosso sur le banc de l'Olympique Lyonnais. On parle de ses choix forts du nouveau coach de l'OL. Mais une question quand même, on sent qu'il tâtonne encore. Finalement, il n'y a pas d'équipe type encore qui se dégage. Est-ce que c'est inquiétant ça, Enzo, après quasiment 2 mois de présence à Lyon?
C'est vrai qu'il fait des choix forts. Après, on ne voit pas pour l'instant une identité de jeu bien précise, mais on voit qu'il veut concerner tout le monde. Il sent que ça passe d'abord par un état d'esprit, que tout le monde l'est, tout le monde se sente concerné. Et puis après, petit à petit, sa patte, on la verra plus avec les résultats, avec les points, avec la confiance qu'il prendra lui aussi. Sauf que là, il est dans le doute comme ses joueurs, en fait.
Après, c'est pas inquiétant de ne pas avoir d'équipe type au bout de 2 mois.
Ça m'inquiète sans m'inquiéter, parce que j'ai l'impression qu'il est encore un peu dans une phase préparatoire, un peu comme s'il n'avait pas fait donc tous les matchs de préparation, ce qui est le cas, et que du coup, il a besoin d'ajuster son équipe. Et je pense qu'à un moment, il va quand même arriver à trouver le juste milieu qui fait que son équipe tournera, j'espère.
Alors après, pour l'instant, il faut bien noter quand même que c'est un jeune entraîneur
aussi.
Un jeune entraîneur qui est arrivé dans une situation que même des entraîneurs français habitués à ce genre de situation auraient peut-être du mal à jauger. Et donc, il faut qu'il apprenne aussi à... Il est en apprentissage aussi par rapport à tout ça, et de dégager peut-être une ossature à un moment donné. Et on le voit, lors des entraînements, ce qu'on voit, parce qu'on voit plus de choses maintenant, il intervient beaucoup. Il replace hein, l'italienne. Voilà. Donc, est-ce que dans la tête des joueurs, évidemment, il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Il faut qu'ils ingurgitent tout ça. Enzo, je ne sais pas comment. Ouais. Quand tu es sur le terrain, comment ça fonctionne, ça, en fait.
Ben, le truc, c'est que pour faire une équipe type, déjà, il faut des automatismes entre les joueurs. Sauf qu'il faut un match référence aussi. Et on n'en a pas encore eu, c'est la première victoire. Et du coup, être un match référence. Et du coup, il ne peut pas s'appuyer sur un match comme ça parce qu'il n'a pas de garantie au niveau des compatibilités parce qu'il y a beaucoup de nouveaux. Lui-même, il est nouveau, il ne connaît pas forcément très bien encore les joueurs. Du coup, je pense que ça viendra, mais avec le temps. Parce que la colonne vertébrale, normalement, c'est les plus expérimentés. Sauf qu'ils étaient un peu en méforme au début. Ils ont eu du mal à tous être bons en même temps. Et du coup, c'est normal qu'ils tâtonnent un peu pour moi.
Cette trêve internationale, elle va faire du bien, finalement. Il y a la victoire. Moins d'internationaux à l'OL qu'il y a eu à une certaine époque.
T'imagines, fait 2 ans qu'il n'y a pas d'internationaux à l'OL.
C'est vrai. Ils vont pouvoir travailler pendant cette période-là. C'est une bonne chose, justement, peut-être aussi pour dégager cette équipe type.
Oui, mais les entraînements, ça ne remplace jamais le match référence qu'on fait. Voilà. Et là, il va vraiment falloir, d'une certaine manière, bon, là, à partir de fin novembre, on va avoir un enchaînement de matchs presque tous les 3 jours avec le match de reprise là, de Marseille. Donc là, on va vraiment voir s'il va y avoir quelque chose et on va voir aussi si cette victoire fait l'ordre du déclic. Alors, il insiste beaucoup en conférence de presse sur l'aspect physique. Ils ont beaucoup travaillé là-dessus, ce qui explique quelques faiblesses à des moments donnés. On a vu, pas sur le match d'hier, mais sur le match d'avant. Le souci, c'est que j'entendais la même chose de Laurent Blanc qui parlait « Vous inquiétez pas, ça va arriver. »
On avait le même discours un peu.
Donc le physique, on l'a jamais vu. Là, on a beaucoup travaillé. Donc on verra aussi, il y a toujours un décalage entre la partie quand c'est tu ça. Bosses beaucoup physiquement et ce que tu as sur le terrain.
Les top flops de ce Rennes OL avec les tops pour commencer. Notre duel va opposer Edouard à Thierry ce soir. Thierry, vous n'avez pas pris trop de risques, vous n'êtes pas trop mouillé. Le buteur, voilà, Jack O'Brien... Face à vous, Edouard et Corentin Tolisso.
Oui, alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que dès la troisième minute, j'avais décidé de le mettre en top. Voilà, je sentais qu'il avait pris en main le match. Il était dans vraiment... on sentait qu'il était dans un bon jour. Il était le cadre qui allait dominer tout ça. Et puis, après, on connaît sa qualité de pied. Et on a bien vu que c'est quand même, mine de rien, c'est quand même le métronome. Alors, il n'a pas toutes ses jambes de 20 ans, il a pas, mais en tout cas, il a la vision du placement, il a la vision des autres, il a la vision des bonnes passes, ces fameuses passes techniques qui, parfois, ont un petit peu fait la différence. Donc, du début à la fin, Corentin Tolisso, même s'il n'a pas fini le match, mais avec sa hargne...
Thierry.
Eh ben pour moi, donc, Jack O'Brien, pourquoi ? Parce que déjà, ouais, trop facile, parce qu'il marque hier, forcément. Mais il y a surtout le fait que depuis qu'il est arrivé, on ne l'entend pas. Il travaille, il joue. Et je le trouve sérieux derrière. Il fait pas peur. Enfin, il est quand même assez serein quand il reprend ses ballons, quand il doit relancer. Enfin, moi, je le trouve vraiment, vraiment propre. Et voilà. Et hier, il est récompensé par un but avec tout ce travail qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui. Et il fait pas de bruit. Et c'est un mec, voilà, so British. C'est un mec qui a la classe, quoi.
Ben, la classe ou l'expérience ?
Ben, j'ai trouvé Corentin bien concerné, tout ça, mais Ryan, il marque le but.
Je suis
but
à deux doigts de donner ce point directement à...
Moi, j'aime bien le joueur. En plus, il est hargneux. Et dans ces moments-là, on a besoin de joueurs comme ça. Quoi.
Et c'est lui qui nous offre ce but tant attendu, qui nous offre la victoire. Un défenseur donc qui marque hier. Les flops, Ernest Nouama pour vous, Edouard, Enzo. Il est un petit peu habitué ces dernières semaines à être dans les flops. Mama Baldé, c'est pas encore ça.
Non, c'est pas encore ça. Je trouve qu'il manque de justesse. Pourtant, il court beaucoup, tout ça. Mais dans les derniers gestes, il est catastrophique, on va dire. Parce qu'on a eu les occasions de faire le break. Et par des erreurs techniques sur le dernier geste, eh ben, on n'a pas pu le faire. Et c'est pas le premier match contre... c'est la première occasion du match contre...
C'est contre le dernier match.
Le dernier match, ouais. Contre Metz, il loupe le face-à-face déjà. Et là, ouais, je le mets flop.
Ernest Nouama, le fameux recrutement Data qui ravit tous les footix sur, désolé, sur les réseaux sociaux, avec des
les
chiffres,
fameux footix
que j'aime tant. Plus le poids du transfert, l'acclimatation, bah, finalement, on voit qu'avec toutes les stats du monde, bah, y a un homme derrière toutes ces stats et que c'est difficile, même jeune, d'arriver avec le poids d'un transfert à Lyon, etc., quelle que soit la personne qui le recrute, qui le choisit. Et quand même deux chiffres, parce que c'est un homme de data, donc pas lui, mais en tout cas ceux qui le suivent. 11 duels perdus sur 12. Donc c'est 92% de duels perdus. Et sur 34 ballons, 14 perdus. C'est pas mal aussi. Donc...
Il a sa
au niveau des duels hein, donc 11 duels perdus sur 12 et 14 ballons perdus sur 34. Voilà, c'est... Alors après, c'est vrai qu'il y a la jeunesse, un certain nombre de choses. Mais bon, hier, absent. Absent des débats.
Eh ben, Ernest Nouama a tendance à m'agacer un petit peu aussi, même si hier il fait l'avant-dernière passe, le petit décalage là pour amener le but, enfin le centre de Koumbédi et le but derrière. J'ai tendance à donner le point à Edouard, et même si Mama Baldé, je trouve que c'est encore vraiment très limite.
Vous aviez une stat pas mal, je crois, sur Mama Baldé.
Ouais, parce que là on parlait des 5 mois et 16 jours pour l'OL. Lui, imaginez-vous, il n'a pas gagné un match en Ligue 1 depuis le 19 septembre 2022.
Ah si, maintenant, depuis...
Oui, non, mais jusqu'à hier.
Tu m'as fait peur, j'ai cru qu'on avait changé.
Et là, vous n'avez pas compté les jours.
11 duels, 22 défaites.
Incroyable.
Tu imagines, Enzo, le poids que tu as sur les épaules.
Incroyable.
33 matchs de Ligue 1.
Ça, Enzo.
Ah non, jamais.
Non,
jamais.
Impossible.
Je pense que j'aurais arrêté avant.
Bah lui, continue. Ouais, comme quoi, il a eu raison de persévérer. Vous restez avec nous, on se retrouve dans un instant. Comme Gun continue. La seconde période de Cop Gun, on débrief bien sûr cette victoire, première victoire de la saison pour l'OL en Ligue 1 face à Rennes, une victoire 1-0, va falloir enchaîner maintenant, messieurs, évidemment, alors il y a la petite pause, la trêve hivernale, et un calendrier compliqué, même si on l'a dit, je sais Edouard, vous le répétez depuis plusieurs semaines, le calendrier ne peut être que compliqué pour l'OL puisqu'on est dernier du championnat. Il va y avoir la réception de Lille, il va y avoir ensuite le déplacement à Lens. Il manque entre les deux le match en retard face à Marseille qui doit se jouer au Vélodrome en public. Toulouse, Monaco, ensuite, ce calendrier vous inspire quoi, messieurs ?
Aïe. Je vais le redire, aïe. Non, enfin, c'est compliqué parce que quand tu vois que tu as eu du mal à gagner, enfin, à faire des résultats contre Metz, contre Clermont, enfin, tu n'as pas fait de résultats du tout, et que tu te dis, tu vois toutes ces équipes qui ne sont pas des équipes de peintres, tu te dis, bah, ça va être compliqué. Mais bon, du coup, Rennes aussi, où on avait un peu peur, on a réussi à... Bon,
enfin, à 11 contre 10, et péniblement.
Il faut le prendre. Ça fait partie du jeu. La faute, elle y est, il y a carton rouge. Voilà. Après, tu te dis que ça peut être aussi une façon d'élever le niveau de jeu, de jouer contre des équipes un peu plus fortes et puis de continuer sur la lancée de la victoire. Quoi.
Et surtout qu'il y a un coup, parce qu'on dit, voilà, l'OL, c'est la première victoire. Mais nos confrères de Canal le disaient très bien hier. Finalement, quand on prend Rennes, ils ont que deux victoires. Hein. C'est juste une de plus que nous. Et on voit ce calendrier, je le disais tout à l'heure, Enzo, oui, on est dernier de Ligue 1, 4 points de retard sur le barragiste, mais un match de moins, ce match à l'OM. Donc finalement, on se dit, on enchaîne 2-3 bons résultats et on bascule aussi un peu plus haut dans le classement. Ça ne se joue pas à grand-chose.
Oui, bien sûr, ça sera compliqué parce que les équipes qui viennent, c'est des équipes en forme, on va dire. Et c'est sûr que cette victoire, elle fait du bien. Après, ça repart sur une spirale positive. Après, il va falloir faire une série de victoires pour vraiment repartir dans quelque chose de plus cohérent. Mais c'est vrai que là, les adversaires qui viennent, ils sont très costauds. Quoi.
Alors après, ça peut être aussi différent parce qu'on ne va peut-être pas forcément avoir face à Lyon des blocs bas. Mmh. Là, ça va être, il va falloir résister d'une certaine manière et puis éventuellement placer des contres ou s'organiser. Ça, il peut y avoir une autre façon. Et puis, on peut imaginer... la confiance va enfin peut-être arriver et que les jambes vont peut-être moins trembler, qu'on va peut-être plus tenter des choses, moins jouer de façon latérale. Donc ça peut-être enclencher quelque chose. L'importance du match d'après, d'une certaine manière, c'est à domicile, c'est face à Lille. Alors
affiche dimanche 20h45.
Encore une fois. Donc on imagine encore le public qui sera là, parce que là, au niveau... hein, Thierry, au niveau
on
des
supporters. On est irréprochable, on peut le dire.
Je pense que vous pouvez le dire.
On va dire, ce qui est bien, c'est que l'OL cette année est pas trop est mal placé. Du coup, on se méfie pas trop de l'OL. Du coup, les équipes ont joué pour gagner et vont laisser beaucoup d'espace dans leur dos. Et,
donc, avec la confiance retrouvée, voilà, cette victoire, ça peut nous laisser après des coups à jouer.
Bien sûr. Voilà, les équipes contre qui vont jouer vont se dire on doit gagner contre l'OL, ils sont dans le trou. Du coup, il y aura des espaces, il peut y avoir des faits de jeu. Et en plus, voilà, on est reparti sur une victoire.
Et après, moi, je vois aussi une autre chose, c'est que les cadres dans ce match d'hier ont été au niveau. Mm-hmm. Donc, ils ont retrouvé de la confiance. Peut-être que ça peut irriguer la confiance pour les autres. Sur
avec
le
soutien du public, on l'a dit. Et un message des supporters. Je voulais qu'on prenne le temps aussi de s'arrêter sur ces images, ces banderoles des Bad Guns déployées hier à Lyon. Qui concerne Tony Parker. L'OL n'a pas besoin de ton aide, ta place est ici et nulle part ailleurs. Banderole mise devant la LDLC Arena. On le sait, Tony Parker, lors du dernier match, qui avait dit que John Textor l'avait appelé, qu'il allait revenir. Le message est très clair là, Edouard. Tony Parker, on n'en veut pas.
Oui, on n'en veut pas. Et puis, c'est vrai que sa formule de prise de parole en disant si je peux aider, voilà, elle était forcément un petit peu mal prise parce que on le dit, on le répète, hein, pour l'instant, Tony Parker, au niveau du club, il n'est rien. Il n'est pas dirigeant, il n'est pas actionnaire. Au contraire, c'est l'OL qui est actionnaire de l'ASVEL. Voilà, on veut faire tout seul d'une certaine manière. Et puis, voilà, il y a d'un côté le basket et de l'autre le foot.
Tony Parker à l'OL, vous n'en voulez pas non plus, Thierry ?
C'est pas que j'en veux pas, c'est qu'il s'y est un peu mal pris la dernière fois quand il a remplacé John Textor. J'arrive plus à dire son nom. John Textor à son siège. Voilà, il s'y est mal pris, il a mal présenté les choses. En plus, il avait la banane avant le match, il avait la banane après le match alors qu'on faisait un partout. Enfin voilà, à un moment, Tony, essaye de faire les choses mieux pour qu'on puisse t'accepter peut-être un jour au sein du club, quoi.
Et on parle aussi peut-être d'un retour de Juninho qui aurait échangé avec John Textor dans un rôle de conseiller. On est pris par le temps, mais on aura le temps de revenir sur cette information la semaine prochaine, puisque Kop Gun sera là malgré la trêve internationale. On fera un peu le point, Edouard, évidemment, sur tout ce qui se dit, tout ce qui se passe en coulisses à l'Olympique Lyonnais. Mais d'abord, bien sûr, comme chaque semaine, les autres résultats du week-end avec Fanny Cousin.
Première défaite à domicile de la saison pour le Loup ce week-end. Pour la dernière de Toby Arnold à Gerland, les Lyonnais n'ont pas réussi à marquer le coup face au Stade français. Malgré un 100% au pied de Paddy Jackson, auteur à lui seul de 15 points, les Rodaniens n'ont pas réussi à se montrer suffisamment dangereux face au co-leader du top 14. Ce n'est qu'au retour des vestiaires que le Loup trouve la faille pour la première fois grâce à Romain Taofifénois. L'ultime essai de Yanis Charcosé en toute fin de match n'aura rien changé pour le Loup qui s'incline finalement 32-36 et se contente du point de bonus défensif. Au classement, Lyon est 9e du top 14. L'ASVEL de son côté a enfin retrouvé le chemin de la victoire après deux défaites de suite face à Limoges en championnat et Monaco en Euroleague. Les Villeurbanais ont souffert mais sont parvenus à s'imposer face à Dijon. S'ils ont couru derrière le score tout le match, ils ont réussi à faire basculer la rencontre dans les dernières minutes grâce au tir primé de David Laïti. Victoire 79-74 de l'ASVEL qui revient à hauteur du 4e Bourg-en-Bresse au classement de Betclic Elite. Et puis en D1, l'OL poursuit son sans faute. 7e match et 7e victoire pour les joueuses de Sonia Bonpastor. Face à Montpellier, les Lyonnaises font la différence en première période. D'abord sur un but contre son camp de Maëlys Mpomé, puis par Khadidia Toudiani. Au retour des vestiaires, les Montpellierennes Céleste Bourreille et Maëlle Lacrard trompent à leur tour la vigilance de leur gardienne avant que Wendy Renard ne vienne inscrire le 5e but lyonnais dans les arrêts de jeu. Avec ce succès 5-0, les Lyonnaises confortent leur place sur le trône de la D1. Prochain match demain sur la pelouse du Slavia Prague en Ligue des Champions.
Merci messieurs, on se retrouve la semaine prochaine, évidemment sur BFM Lyon. Très bonne soirée à tous.